C'est à mon tour de conclure, donc Bruno Rome. Je suis professeur en sciences de l'éducation et de la formation et directeur adjoint d'EMA. J'ai aussi été instituteur et j'ai travaillé 15 ans en ZEP à Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise. Voilà. Donc je me retrouve dans beaucoup des questions évidemment qui doivent être les vôtres. Alors, dans cet ouvrage, il me revient donc de travailler sur les 3 et 4e parties, de vous présenter les 3e et 4e parties du livre, donc respectivement paradoxe de la forme scolaire et institution en contexte et débat autour des alternatives. Alors, l'idée que je voudrais faire ressortir et peut-être vous soumettre, qui m'est apparue en reprenant ces deux parties de l'ouvrage, c'est que le concept de forme scolaire pourrait permettre de saisir le caractère systémique des mutations en cours au cœur de l'école primaire ou dans ses marges, et parce que c'est un concept qui renvoie à un questionnement axiologique, c'est-à-dire quelle finalité voulons-nous pour l'école, un questionnement relatif à une école émancipatrice de nature, par exemple, à mieux prendre en compte l'hétérogénéité des élèves. Et à travers, finalement, beaucoup des contributions que j'ai relues, on retrouve plus ou moins, mais plutôt plus que moins, cette axiologie-là. Alors, dans la troisième partie, j'ai fait quelque chose d'assez, linéaire, par manque de temps, mais peut-être aussi parce que la complexité du sujet faisait que bon, ça me convenait mieux comme ça. Patrice, lui, il est parti sur des recompositions avec des... Voilà, c'est des styles et des façons de faire différentes. Alors, commencer par vous donner effectivement cette définition que Guy Vincent donne de la forme scolaire qui est reprise au début de la partie en question, qui semble effectivement... qui permet de situer les choses. Bon, il y a eu beaucoup de... Guy Vincent est beaucoup revenu sur cette question, notamment dans cet article avec Courtebras et Reuter. On va voir aussi que dans le chapitre de Reuter, il reprend de façon assez approfondie toutes les questionnements autour de la forme scolaire, mais cette définition, on la retrouve dans plusieurs contributions. Donc cette idée que la forme scolaire, c'est une forme de transmission de savoir et de savoir-faire. Alors, savoir-faire est écrit comme ça, hein, qui privilégie l'écrit, qui entraîne la séparation de l'écolier par rapport à la vie adulte, ainsi que la séparation du savoir par rapport au faire, et elle exige donc la soumission à des règles, à une discipline spécifique, qui se substitue à l'ancienne relation personnelle teintée d'affectivité, ce qui crée donc historiquement une relation sociale nouvelle. Au premier chapitre de la partie 3, Sylvie Jouan, reprend aussi le concept de forme scolaire. Alors Sylvie Jouan, elle a travaillé beaucoup sur la classe multi-âge dans une perspective historique. Elle a fait une thèse avec André Robert où elle montre aussi le choix de l'enseignement simultané plutôt que de l'enseignement où vous aviez des... Le mot m'échappe tout d'un coup. Enfin, le choix qui a été fait de la classe telle qu'on la connaît aujourd'hui par rapport à l'entraide. Voilà, l'entraide entre élèves qui a été un débat au XIXe siècle quand il s'est agi de choisir le modèle scolaire pour tous les enfants d'école primaire. Et donc elle dit que le concept de forme scolaire, selon elle, est un concept éminemment pertinent pour prendre conscience des multiples évolutions de l'école primaire au XXIe siècle. Parce que il existe des dispositifs qui mettent à l'épreuve la forme scolaire, à moins que celle-ci, dit-elle, ne soit si résistante que les diverses innovations pédagogiques se heurtent elles-mêmes à la persistance de cette forme scolaire. Et ça pourrait aussi, dit-elle, expliquer un certain nombre de freins au changement. Elle ajoute que dans l'approche que Guy Vincent développe, il y a un aspect résolument émancipateur pour les acteurs de l'école. Et donc elle dit « La dimension socio-historique du concept va inviter en fait à envisager une possible déconstruction de la forme scolaire. » Donc loin de naturaliser cette forme, on peut penser effectivement qu'elle n'est pas immuable et que l'historicisation permet de s'en affranchir à certaines peut-être conditions. Alors un bon exemple de cette, on pourrait dire, mainmise de la forme scolaire sur les pratiques, c'est le chapitre 2 de Lucie Motier-Lopez qui parle des pratiques d'évaluation des élèves. Elle prend l'exemple de l'évaluation des élèves pour montrer que finalement, cette évaluation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui à l'école illustre un certain nombre de paradoxes de la forme scolaire. D'abord, son idée principale, c'est de dire des choses qu'on sait, ma foi. L'évaluation, elle a deux formes, telles qu'on peut l'observer aujourd'hui à l'école. Il y a une fonction, plus exactement, formative. Elle a deux fonctions. Une fonction formative qui prend la forme du soutien aux apprentissages des élèves. On va effectivement apprécier les acquis des élèves pour nous permettre de piloter nos enseignements, pour prendre de l'information, ajuster les dispositifs qu'on utilise, et puis inviter aussi les élèves à s'auto-évaluer pour progresser. C'est tout ce qu'on appelle l'évaluation formative. Mais elle dit bien sûr qu'il y a une deuxième acception de l'évaluation, une deuxième fonction qui peut-être est beaucoup mise en évidence aujourd'hui. Patrice l'a rappelé, et puis Marie-Laure aussi, à travers les évaluations internationales, mais aussi nationales, bien sûr. C'est donc l'évaluation pour classer, pour hiérarchiser, pour sélectionner, voire pour exclure. Elle constate aussi donc une folie évaluative. Ce sont les termes qu'elle reprend, je crois, à Charles Hadji. Folie évaluative qui s'est emparée de l'école. Et donc, elle énonce des résultats qui montrent que l'évaluation des élèves est symptomatique du maintien de cette forme scolaire. Premier exemple, les pratiques restent tendanciellement celles d'une évaluation qui sanctionne avant même de soutenir les progrès, les progressions. Des modes d'évaluation qui sont plutôt individuels, plutôt écrits, sans accès aux ressources pour peut-être les élèves qui en auraient le plus besoin, alors que ces ressources étaient présentes dans les situations d'apprentissage. Là aussi, on pourrait imaginer qu'on différencie les modalités d'aide. Une évaluation de certains savoirs, mais pas d'autres, parce qu'il y a des savoirs complexes qui nécessitent peut-être de mobiliser différents types de compétences, donc on ne va pas évaluer cela. Et puis, une évaluation des apprentissages qui reste encore donc trop souvent normative, sélective. Elle se demande, donc, pour conclure, comment nous allons faire avec les évolutions sociétales, les transformations de nos sociétés et donc de l'éducation pour évaluer des valeurs, des enjeux identitaires, des compétences émotionnelles et sociales. Alors il y a des gens qui s'y attellent, mais ça fait débat, hein, la question des compétences socio-émotionnelles, les intelligences technologiquement augmentées. Bon. Troisième chapitre. Yves Rother, dont j'ai déjà un petit peu parlé, nous dit que la forme scolaire pose un certain nombre de débats. Il pose, lui, d'ailleurs, les débats que cette forme scolaire lui inspire. Il reprend, comme je l'ai dit, vraiment avec beaucoup de précision chaque aspect du concept. Et puis il dit qu'on ne peut pas résumer la forme scolaire à une description neutre parce qu'elle construit, un petit peu comme l'a dit déjà Sylvie Jouan, une vision critique des fonctions scolaires classiques. Les pratiques traditionnelles, magistrales, impositives, font peu sens pour les élèves. En ce sens, nous dit Yves Rother, la forme scolaire est proche de la notion de scolastique que Freinet avait employée. Je cite « ce qui est fait pour l'école, ce qui est fait par l'école, pour l'école, sans relation avec la vie réelle et les intérêts des enfants ». Donc Rother souligne l'intérêt du concept de forme scolaire, du coup, pour s'intéresser, étudier les démarches pédagogiques alternatives dont, dit-il, certaines proposent une socialisation démocratique là où la forme scolaire propose une socialisation impositive. Il nous dit le concept de forme scolaire permet de penser de manière plus complexe et, dit-il, au-delà des positions partisanes, un certain nombre de débats autour de l'organisation de l'enseignement, des modes de travail pédagogique et des contenus d'enseignement eux-mêmes. À la lumière de la forme scolaire, dit-il encore, on peut mieux comprendre comment certaines propositions pédagogiques alternatives qui peuvent questionner les principes mêmes de cette fonction, du fonctionnement de l'école, pardon, comment donc ces propositions pédagogiques alternatives peuvent être questionnées par la forme scolaire. Et il cite l'ouverture de l'école sur le monde extérieur, la prise en compte des pratiques extrascolaires, elles sont peut-être extraordinaires, je ne sais pas, on en jugera, le décloisonnement disciplinaire ou encore l'accent porté donc sur les projets, l'organisation des savoirs au sein de ces projets. Donc il dit effectivement que ces propositions pédagogiques, elles viennent de fait questionner les principes même du fonctionnement de l'école, donc la forme scolaire. Alors voilà pour la troisième partie, j'en viens à la quatrième partie, donc qui s'appelle « Mutation institutionnelle en contexte et débat à propos des alternatives possible à l'école primaire. Donc on va garder en tête, ou je dirais en analyseur, si on reprend la terminologie de l'analyse institutionnelle, le concept de forme scolaire. Mais je souhaitais un peu bouleverser l'ordre de l'ouvrage en commençant par le chapitre 2, proposé donc par Xavier Pons, qui aborde la question de la managérialisation de l'école primaire française. Et Xavier Pons pose ces termes sous forme d'une interrogation. Il ne répond pas, il pose la question, on va voir comment il y répond. Il ne répond pas forcément par l'affirmative, justement. Donc, alors pourquoi j'ai choisi de mettre ce chapitre 2 là tout de suite en tête d'intervention à ce moment-là, c'est qu'il me semble effectivement que cette orientation politique est en train de surdéterminer la lecture que nous pouvons faire de l'état actuel de l'école et peut-être même de ses évolutions. Alors Xavier Pons a fait une revue de littérature de recherche, inédite, parce que en fait au départ on avait donc c'est Christian Marois qui était intervenu pour la petite histoire, et quand on a demandé à Christian Marois de faire le chapitre, il nous a dit: écoutez, j'ai déjà écrit tout ce que j'ai dit au colloque, je l'avais écrit dans d'autres articles, du coup je sais pas trop ce que je pourrais proposer de plus. Donc du coup on a demandé à Xavier Pons, qui avait écrit avec Marois et qui connaissait bien ce sujet là et lui, il s'en est emparé parce que je crois que ça lui a été utile pour démarrer finalement, pour s'intéresser aux politiques d'éducation à l'école primaire. Et donc il a fait effectivement une revue de littérature qui lui a permis d'arriver aux résultats que je vais vous donner là. Alors il dit d'abord, en s'appuyant bien sûr sur un certain nombre d'autres travaux, depuis le début des années 80, il y a dans le champ de l'éducation en général cette logique du nouveau management public qui intervient, qui arrive massivement dans les politiques d'éducation et qui vient transformer très profondément les modes de régulation et l'organisation même des systèmes scolaires, et aussi, bien sûr, les professionnalités des acteurs. Alors, ce nouveau management public passe par des politiques d'accountability, c'est-à-dire des politiques de reddition de comptes, en bon français. On vise à améliorer l'efficacité et l'efficience, c'est-à-dire être le plus efficace au moindre coût possible, avec le moins de moyens possible, de l'école. En rendant des comptes, les acteurs doivent rendre des comptes sur les résultats de leur action. Et en plus, ces politiques sont censées corriger les écarts observés entre les résultats et les objectifs. Donc voilà, pour aller vite, je vais très vite, il distingue, il redonne, ça c'est très intéressant, j'ai trouvé les 5 caractéristiques du nouveau management public, vous pourrez regarder, voilà, il y a une synthèse qui est tout à fait intéressante. Alors, si on souhaite maintenant regarder comment ça se traduit, alors il dit d'abord, Xavier Pons, qu'il est difficile de conclure à une managérialisation effective de l'organisation des écoles primaires en France ces dernières décennies, en regardant la littérature donc qu'il a consultée. Mais il se dit que peut-être il pourrait y avoir une accélération forte de cette politique, de cette façon de réformer l'école primaire, à travers 3 types de mesures qui ont été annoncées en 2021. Tout d'abord, les conclusions des différents événements autour du Grenelle de l'éducation, qui avait vocation, vous vous souvenez sans doute, à transformer la professionnalité des enseignants. En partie ça. Il y a sans doute d'autres éléments. Il y a des collègues ici qui sont mieux placés que moi pour le dire, mais il y avait ça en l'occurrence. L'annonce du plan Marseille en grand, qui a eu aussi un certain nombre d'effets. Pour avoir rencontré des collègues du SMIPP à Marseille il y a 2 ans, on a eu des discussions tout à fait intéressantes sur cette question, la façon dont ils s'en emparent aussi, parce qu'ils n'ont pas été dans le rejet, mais en même temps, ils ont posé un certain nombre de questions et de constats, on donne effectivement à 2 écoles proches qui ont des populations socio-économiquement équivalentes. On va donner plus à l'une qui fait des projets et moins à l'autre, alors même que finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on constate quand on fait ça? Que quand on met des moyens, effectivement, la réussite est davantage au bout que quand on n'en met pas. Donc si c'est pour conclure ça, enfin, j'allais dire, on le sait déjà, mais qu'est-ce qu'on en déduit d'un point de vue politique, si ce n'est que on va donner en fonction des moyens qu'on a et peut-être pas donner à tout le monde du coup. Enfin, voilà. C'était en gros, je vous dis ça un petit peu comme ça me revient, mais c'était un peu la teneur des conclusions auxquelles ils étaient arrivés. Et troisième élément, c'est la loi du 21 décembre 2021, la loi RIAC sur la fonction de directeur ou directrice d'école, l'évolution du métier de directrice ou directeur d'école dans le sens d'une... Alors, on n'est pas encore dans une hiérarchie comme dans le second degré, dans une hiérarchie statutaire aussi importante, mais quand même. Alors, si on se focalise sur l'éducation prioritaire, parce que c'est un sujet évidemment qui vous intéresse particulièrement, les effets du nouveau management public sont observés à travers les projets et contrats de zone, à travers l'évolution des rôles des directeurs, dans le sens d'un alourdissement des prescriptions institutionnelles et des charges de travail. Ils deviennent porteurs de projets, encore un peu plus, animateurs des relations avec la commune, managers de l'équipe enseignante au niveau local. La transformation des rôles des IEN, dans le sens d'un renforcement du pilotage et du contrôle par l'évaluation, la modification de la relation entre les politiques éducatives nationales et pouvoirs locaux, Marseille en grand en est un exemple, et puis une logique de protection des enseignants vis-à-vis des difficultés scolaires. Alors là, ce qu'explique Xavier Pons, c'est que cette logique de protection par rapport aux difficultés va amener les enseignants à se concentrer sur les élèves qui peuvent progresser, peut amener, il y a ce risque-là, de faire en sorte que les enseignants vont se concentrer sur les élèves qui peuvent progresser et à imputer la persistance des difficultés des autres aux insuffisances des parents ou à des considérations médicales. Et donc, il observe aussi des logiques de résistance profonde. Alors ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant, de dire que dans le premier degré, dans la culture du premier degré, il y aurait, d'après un certain nombre de travaux qu'il a consultés encore une fois, une résistance profonde de la part des enseignants à cette politique en lien avec une gouvernance fondée sur la performance. Donc ça fait pas partie de la culture du premier degré. De même que cette performance s'éloigne, de l'activité quotidienne de gestion des apprentissages et aussi des valeurs et de l'éthique professionnelle des enseignants. Donc ça pourrait apparaître comme un des aspects, on va dire, positifs. L'idée de Xavier Pons dans ses derniers travaux, c'est de dire qu'en fait, les politiques d'éducation aujourd'hui sont dans une logique d'implémentation... je dirais façon Peulz pour paraphraser un célèbre film, puisqu'il s'agit en fait l'idée du puzzling, comme il l'appelle, c'est donc une stratégie qui vise à avancer par petits pas sur différents dossiers, et puis quand on met bout à bout ces différents dossiers un peu techniques, on voit qu'il y a bien une logique effectivement qui les reliait au départ, mais comme on les traite pas, voilà. Il y a des représentants syndicaux ici, j'imagine qu'ils voient très bien de quoi on parle. Donc cette logique de puzzling, effectivement, alors peut-être est-elle mise en sommeil dans l'attente de l'élection présidentielle de 2027, tout ce que je viens d'indiquer là sur les éléments de 2021, mais rien ne dit qu'un coup d'accélérateur ne leur sera pas donné ensuite. Alors là, j'extrapole un peu évidemment ce qu'a dit Xavier Pons. Mais ce qu'il nous dit, par contre, pour terminer, c'est que les risques de ces politiques sont bien connus si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre. C'est le triomphe d'un néolibéralisme qui accentue les inégalités et une perte générale de sens de la politique d'éducation. Alors, je vais terminer par le dernier chapitre, le chapitre 1. Donc, vous voyez, j'ai modifié l'ordre. Donc, qui est consacré aux mutations institutionnelles en contexte. Alors l'institution dans le premier chapitre de cette dernière partie est entendue de deux manières. D'une manière qui peut être statique, mais aussi d'une manière dynamique qui renvoie aussi à des courants de pensée qui sont forts dans notre laboratoire, l'analyse institutionnelle, l'idée qu'il y a que les relations entre instituant et institutionnalisation ne sont jamais figées. Donc selon cette approche, si on suit cette approche, il ne peut y avoir de définition des politiques éducatives ou encore de l'école qui serait donnée une fois pour toutes. Voilà. Il y a l'idée que, et même quand une politique est donnée, quand on commence à regarder la façon dont ce que les acteurs font des prescriptions institutionnelles, ce que font un certain nombre de chercheurs, on voit bien que les écarts sont importants. Et heureusement, parfois, qu'il y a des formes de résistance passive ou de réappropriation, de réinterprétation des politiques éducatives pour y donner justement un sens un peu plus en phase avec ce que certaines conceptions du métier. Sur la notion de contexte, on va s'appuyer dans les communications qui ont été faites lors de ce colloque. On s'est beaucoup appuyé, on va dire, sur l'idée générale de Yves Claude, qui est de s'approcher au plus près des situations, des contextes, pour essayer de saisir le réel en train de se faire. Voilà. C'est aussi tous les courants de l'analyse de l'activité qui ont été très présents dans le colloque. On peut ajouter, Marie-Laure l'a déjà dit, donc je vais aller très vite sur ce sujet, l'apport des recherches collaboratives au sens large, qui permettent justement de saisir de façon fine les contextes et de leur donner du sens, en les comparant à d'autres études, pour en dégager aussi des résultats généralisables. Alors, on va regarder justement quelques-uns de ces résultats tels qu'ils apparaissent dans ce chapitre, rapidement. En milieu rural, alors je passe comme ça, vraiment, c'est un peu des flashs. Hein. En milieu rural, un des éléments qui semble se dessiner aujourd'hui, c'est le fait que l'intervention d'organisations économiques dans l'école publique ou la multiplication d'initiatives privées, comme les projets d'école alternative, on en a un peu parlé, hors contrat ou sous contrat, mais plus souvent hors contrat, sont plutôt bien accueillis par les différents acteurs, et souvent, ils sont la seule réponse possible, ils sont les seules réponses possibles quand l'école publique a été fermée, ce qui arrive dans un certain nombre d'endroits. Les seules réponses, les seules options possibles pour les parents. Dans les relations entre école et famille, on peut dire que c'est une vieille problématique française. Les tensions liées à la mise en œuvre de la coéducation sont toujours bien présentes. Mais les professionnels doivent aussi s'adapter aux réalités locales. Ça m'évoque, moi, quand j'entends cette phrase, ça m'évoque évidemment les travaux d'Agnès Van Zanten sur les parents consommateurs d'école, etc. Voilà, ça, c'est une tendance. Ce sont des tendances lourdes, hein. Du côté des directeurs d'école, là aussi, finalement, on n'est pas très, très étonné de voir que leur statut va dépendre aussi beaucoup du local et de la reconnaissance qu'ils ont par les acteurs locaux. Du côté des coordonnateurs et coordonnatrices REP, on nous dit qu'ils construisent leur expertise à la fois en croisant le territorial et l'éducatif. Elle est fondée sur l'exercice de leur métier et puis qui s'élargit progressivement à la connaissance sociale et locale du terrain dans lequel ils travaillent. Du côté des professeurs des écoles, alors, il y a cette phrase moi, qui m'a... je ne sais pas si elle m'a surpris, mais en tout cas, elle est là. On dit des professeurs des écoles qu'ils seraient davantage attachés à la stabilité qu'à l'innovation et que leurs pratiques professionnelles sont tiraillées. Patrice l'a énoncé en formation initiale, mais en formation continue, on pourrait dire que ça se poursuit entre des contextes très contraignants, locaux, qui peuvent être assez différents, et des prescriptions et injonctions institutionnelles qui n'en sont pas moins de plus en plus vives, hein, on va dire, de plus en plus prégnantes, pressantes même, on pourrait dire. On peut terminer aussi par une observation concernant les professeurs des écoles, qui rejoint d'ailleurs sûrement même des problématiques de formation. Dans les pratiques professionnelles des enseignants du primaire, ils utilisent de plus en plus les sites internet pour préparer leurs classes. Et ces sites deviennent finalement, tout autant que les textes officiels, des prescripteurs de pratiques. Je ne vais pas dire de bonnes pratiques, mais de pratiques. Alors même que certains sites s'appuient sur des programmes anciens ou qui ne sont pas adaptés aux réalités nouvelles, aux connaissances nouvelles sur l'école. Donc, j'en termine avec le troisième chapitre qui traitait de l'état des débats à propos des alternatives possibles à l'école primaire, en particulier de la prise en charge de la singularité et de la différence, des difficultés qui y sont liées, bien sûr. Alors, il y a trois objets de recherche principaux que nous avons identifiés, les pédagogies différentes issues ou non du mouvement de l'éducation nouvelle, les pratiques d'enseignement qui se posent comme des alternatives, et puis l'inclusion scolaire. Je dirais aussi quelques mots du partenariat. Alors, s'agissant des pédagogies différentes, D'abord, on peut dire qu'il est significatif, plusieurs contributeurs le soulignent, il est significatif qu'au début du XXIe siècle, on continue à parler de pédagogies différentes alors qu'elles sont nées il y a plus d'un siècle. Ce qui dit évidemment quelque chose de leur difficulté, enfin, peut-être du fait qu'elles soient toujours finalement nouvelles, mais que contrairement à un certain nombre de discours convenus, elles n'ont pas envahi l'école primaire, en particulier, puisque c'est notre sujet du jour. Donc ces pédagogies différentes continuent de susciter un certain intérêt, et elles restent aussi toujours très marginales au sein du système éducatif dans l'école primaire. Les contributeurs du colloque le confirment. Ces pédagogies démontrent aussi parfois en contexte leur capacité à en prendre en compte la diversité des besoins des élèves de l'école publique. Il y a notamment une recherche sur la pédagogie Montessori à l'école maternelle publique française qui a été présentée, et aussi des recherches plusieurs sur les effets des pédagogies coopératives à l'école primaire. Il y avait eu bien sûr l'ouvrage d'Ivreterre en 2007, mais d'autres travaux, on va dire, confirment ces éléments. Autre intérêt, on voit aussi de nouvelles pratiques émerger dans l'école publique. Alors, on en a cité un certain nombre ici, je les reprendrai aussi en conclusion, mais les classes flexibles, les écoles de plein air, des hybridations aussi, qui font partie finalement aussi de l'histoire de l'éducation nouvelle, mais des choses qui pourraient peut-être nous étonner, Montessori et Freinet, classes flexibles et pédagogie coopérative, et aussi des initiatives venues d'acteurs privés, encore une fois, je reparle des acteurs privés, qui sont des conséquences des défaillances de l'école publique, donc les écoles privées hors contrat, l'instruction en famille. Philippe Bongrand, qui a fait une grosse recherche dans notre laboratoire sur l'instruction en famille, a expliqué que la principale motivation des parents qui mettaient leurs enfants dans des écoles faites par des parents ou qui créaient des écoles, la principale motivation, ce n'est pas des parents bobos qui souhaiteraient effectivement faire autre chose parce qu'ils ont le loisir de réfléchir à une bonne éducation pour leurs enfants, mais ce sont plutôt des parents qui ne trouvent pas au sein de l'école publique les réponses adaptées à des élèves qui sont en grande difficulté d'apprentissage. C'est ça la raison majeure. Donc ça vient évidemment interroger l'école publique. Je continue sur les pratiques d'enseignement. S'agissant des pratiques d'enseignement, je vais aller assez vite aussi. S'agissant du développement de la philosophie à l'école primaire, qui a été initié par Michel Tozzi, c'est aujourd'hui Edwige Schirrutter qui y travaille, et dans un symposium qu'elle a animé, il a été montré des effets bénéfiques sur le développement de l'esprit critique, la coopération et l'éducation aux valeurs de ces pratiques. Elle dit également que là où ces pratiques viennent quelque part questionner la forme scolaire, c'est qu'elles ont une considération éthique de l'élève comme un interlocuteur valable, qu'elle travaille aussi le rapport à la loi et une approche problématisante des savoirs. Autre élément, la question des arts à l'école. Pour ceux qui connaissent ces questions, il n'y a rien de nouveau, mais on insiste quand même sur le fait que faire vivre aux élèves des expériences artistiques leur permet effectivement d'appréhender les arts d'une autre manière et finalement d'apprendre quelque chose d'une démarche artistique. On a aussi des éléments, des contributions qui parlent de la structuration de l'aide aux élèves en difficulté en lecture-écriture. Je les cite simplement. On parle aussi des programmes numériques en disant qu'ils peuvent apporter une aide efficace mais qu'ils ne remplacent pas le professeur et qu'ils doivent être de simples outils à disposition parce qu'il y a aussi un risque que ces enfants dépendent trop de ces outils au risque d'entraver leur autonomie en lecture. J'en viens ensuite à la question d'une manière générale, on va aller vers la question de l'inclusion, mais là où je veux en venir, c'est que d'une manière générale, en fait, ce que montre aussi ce chapitre en particulier, cette dernière partie, c'est que il faut essayer d'élargir un peu, de prendre un peu de distance par rapport à ces questions d'accompagnement et de difficultés pour essayer de les repenser dans un contexte un petit peu plus large qui va favoriser ou qui peut entraver la progression de tous. On parle là de la difficulté des élèves. Et donc, il y a des pratiques qui se développent, telles le co-enseignement pour la prise en charge des élèves en difficulté, selon différentes modalités. On peut les retrouver dans les réseaux d'aide, dans l'intervention des maîtres E ou des maîtres G. La présence de maîtres surnuméraires. Alors, il y a la fameuse expérimentation « plus de maîtres que de classes » qui a été abandonnée en 2017 au profit du dispositif de classe dédoublée. C'est un sujet, enfin, vous connaissez le sujet, mais il est évidemment évoqué parce qu'un certain nombre de travaux en 2021 commençaient déjà à faire un bilan de plus de maîtres que de classes, un bilan qui était plutôt plus positif que celui qu'on a eu après, quand y compris l'ADEP nous a sorti les chiffres des effets du second dispositif. Donc, à l'occasion de ces nouvelles pratiques, des gestes professionnels apparaissent aussi, la co-formation, la coopération. Alors tout ça nous amène à la question de l'inclusion scolaire, qui est sans doute l'une des mutations les plus importantes de l'école du XXIe siècle, depuis bien sûr la loi de 2005. Alors il y a évidemment des dispositifs, même si on parle d'inclusion, il existe quand même toujours des dispositifs spécifiques. On en liste un certain nombre dans l'ouvrage, la SECPA, la création plus récente d'autres dispositifs spécifiques, UPE2A, l'unité pédagogique pour les élèves allophones arrivant, les unités locales pour l'inclusion scolaire, les unités d'enseignement élémentaire autisme et la même chose pour la maternelle. Donc dans ces différents dispositifs, elle tombera pas plus bas, très bien, dans ces différents dispositifs, il y a des pratiques pédagogiques nouvelles, des nouvelles professionnalités et aussi une reconfiguration des espaces entre les professionnels. Du côté des nouvelles pratiques pédagogiques. Donc j'évoquais le co-enseignement, la co-intervention, le travail collaboratif entre enseignants ou entre professionnels de statuts différents. Donc ces différentes modalités conduisent à des interventions pédagogiques plus polyvalentes, différenciées, des stratégies d'enseignement anticipées et créatives. On a aussi observé davantage d'interactions du fait de ces nouvelles pratiques entre élèves et professeurs. Et puis, une plus grande individualisation des apprentissages. Du côté des nouvelles professionnalités, on a une division du travail éducatif. Ça a été montré par un ouvrage en particulier québécois, mais en France aussi, après, d'autres chercheurs l'ont montré, qui génère des tensions entre des professionnels de statuts différents. Voire... Comment ? Ah, pardon. Au revoir. Donc des tensions entre professionnels de statuts différents, voire des tensions entre des logiques différentes et des valeurs professionnelles aussi différentes, forcément. Les espaces interprofessionnels donc, sont reconfigurés. On s'aperçoit que l'école primaire externalise un certain nombre de difficultés. Ça a été, plusieurs chercheurs le disent, vous connaissez évidemment ces discours-là. Et puis la médicalisation des troubles des apprentissages avec les 10, les multi-10, etc. Alors les enfants qui réussissent, en fait, aussi ce qui est observé, c'est qu'ils continuent à bénéficier du soutien conjoint des éducateurs et des professeurs. Et la problématique de l'école inclusive met en exergue aussi celle des partenariats. Un partenariat qui se reconfigure autour d'un double mouvement de médicalisation et d'externalisation des troubles, un mouvement qui est paradoxal dans une institution qui, normalement, est censée inclure, puisque le paradigme de départ, c'est l'inclusion. Mais on aboutit aujourd'hui à ce double mouvement. Alors, pour finir, les partenariats. Du côté des relations avec les familles, on retrouve l'importance des stratégies familiales dans les choix scolaires. Là aussi, rien de nouveau, mais... Le renforcement, évidemment, a du sens. Le fait d'en reparler encore, ça dit quelque chose du fait qu'on a progressé dans une direction. Les relations de méfiance qui peuvent s'installer dès la maternelle, notamment avec les familles de milieux populaires, qui ont du mal à répondre aux normes attendues par l'école quant au rôle de parents, et une idée qui perdure que les parents devraient être formés et que leurs pratiques éducatives devraient être corrigées. Autre élément important, des partenariats qui tendent à se multiplier selon les situations scolaires, avec les collectivités locales, les associations, les entreprises, ce qui vient soulever des questions la question des frontières entre les professionnels et puis la question des places respectives du public et du privé, dans ou en dehors de l'école. Pour conclure, j'ai listé un certain nombre de dispositifs dont je vous ai parlé. Vous les avez là. On pourra bien sûr laisser notre diaporama, donc vous les retrouverez. Et puis, ces dispositifs, on peut dire que ce sont des dispositifs qui questionnent la forme scolaire de différentes façons, par l'attention appuyée portée aux enfants par-delà les élèves, par leur capacité à en prendre en compte la diversité de leurs besoins, par le rapport à l'espace. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'espace et l'école, l'architecture, le temps scolaire aussi, qui est un point évidemment tout à fait essentiel. Il y a une réforme ces dernières années qui a avorté. Le président de la République a remis le couvert sur cette question, mais on ne sait pas trop sur quoi ça va déboucher. Les rapports au savoir, les situations de socialisation, le rapport aux règles scolaires et à la prise de risque, à la nature et à l'éco-citoyenneté. Il y a eu un certain nombre, évidemment, de contributions sur les problématiques écologiques. Et puis l'école dans son environnement en tant que lieu d'apprentissage et de vie pour tous. Et pour, comme dernier mot, ce qu'on peut dire finalement, c'est que ces pratiques pédagogiques et ces dispositifs constituent un laboratoire pour repenser l'école du XXIe siècle, parce qu'ils témoignent à la fois des héritages du passé, mais aussi de la capacité de l'école et de ses acteurs à s'adapter aux problématiques actuelles. Encore faut-il que la puissance publique s'en saisisse. Voilà. Merci à vous.